Madrid, Moscou.
Je croise aux forces de l'esprit pour aller amuser la galerie.
There is no alternative.
Des actes, l'alignement des actes.
À ta place, en façon, des burgatons.
Time will tell.
Russe Europe Express,
Jacques Sapir,
Clément Olivier. C'est un dessin de presse de l'irremplaçable Ali Dilem dans le quotidien algérien Liberté. C'est une caricature. Caricature qui représente Emmanuel Macron, juché en haut de la tour Eiffel, cerné par une foule hostile vêtue de gilets jaunes et qui dit à son peuple en montrant de la main les manifestants pacifiques de l'autre côté de la Méditerranée, prenez exemple sur les sociétés civilisées. Depuis le 22 février déjà, chaque vendredi, vous le savez, en Algérie, l'Algérie voit en effet les manifestations pacifiques s'enchaîner semaine après semaine au point que certains parlent déjà d'une révolution du sourire et la mobilisation ne faiblit pas, tandis que les soutiens du président Bouteflika le lâchent les uns après les autres. Alors où en est l'Algérie et surtout quelle situation politique et économique profonde se cache derrière cette crise politicienne? Bienvenue à tous, c'est Russe Europe Express. Bonjour Jacques Sapir.
Bonjour Clément.
Et avec nous dans ce studio, Hicham Rouiba, bonjour.
Bonjour.
Chercheur en socio-économie à l'université Oran 2 et doctorant à Paris 7. Vous travaillez notamment sur les entreprises chinoises qui sont présentes en Algérie. Et en face de vous, quelqu'un que nos auditeurs connaissent bien. Bonjour Renaud Bouchard.
Bonjour.
Nos auditeurs vous connaissent bien, mais habituellement plutôt pour votre expertise sur la Russie. Or, il se trouve que la thèse que vous êtes en train de finir à l'EHESS porte sur la géopolitique des fonds souverains et que vous êtes notamment largement intéressé au fonds souverain algérien qui nous préoccupe donc aujourd'hui. Bienvenue à vous deux. Alors Jacques Sapir, votre édito, après plusieurs semaines de mobilisation massive, eh bien Abdelaziz Bouteflika semble de plus en plus isolé.
Oui, et les manifestations qui depuis ces dernières semaines se succèdent en Algérie viennent de connaître un nouveau succès. Le général Ahmed Gaïd Salah, qui est le chef de l'armée algérienne, a appelé le 26 mars dernier à la destitution d'Abdelaziz Bouteflika pour inaptitude. Et c'est une position qui a été reprise par des dirigeants du RND, une fraction du FLN et surtout le grand syndicat, l'Union Générale des Travailleurs Algériens. Ce succès vient après la décision prise il y a déjà maintenant deux semaines du président Bouteflika de ne pas se représenter, mais en annulant à ce moment-là l'élection présidentielle. Alors il faut rappeler que c'est bien la décision du président Bouteflika, vieillard fort diminué, de se représenter pour un cinquième mandat qui avait humilié très profondément les Algériens. Cette décision de ce que l'on nomme le pouvoir, c'est-à-dire un assemblage fragile de cliques hétéroclites, de vouloir faire réélire justement celui qu'ils appellent le mort-vivant, avait un côté à la fois odieux et un côté ridicule. Au-delà, se sont exprimés dans ces manifestations des aspirations extrêmement fortes à plus de liberté et à plus de démocratie.
Et alors, qu'est-ce qui vous semble important à retenir dans les spécificités de ce mouvement?
Alors, la première caractéristique du mouvement de protestation en Algérie a été justement son aspect massif, mais aussi son aspect très consensuel. Aucune force politique n'a réussi à se l'approprier. Ce mouvement s'est de plus déroulé dans l'ensemble, sans violence majeure. Les forces de l'ordre algériennes ont fait preuve d'une grande retenue et ce mouvement n'a jamais tourné à l'émeute. Cela signe d'un côté la maturité de la population qui vit toujours, il faut le rappeler, avec le souvenir de l'atroce guerre civile d'il y a deux décennies, mais aussi la retenue justement de ce qu'on appelle le pouvoir qui sent bien qu'il a affaire à un soulèvement général de la population. Alors, il est clair que le pouvoir a été impressionné par le caractère massif des démonstrations de rue, mais aussi par les grèves qui ont paralysé le pays. Il n'a pas fait, du moins pour l'instant, le choix de la violence. Il a évité le pire en cédant sur le principe. Le président Bouteflika ne se représentera pas, cela a été acquis, mais on pouvait craindre qu'avec l'annulation de l'élection présidentielle et la très imparfaite définition d'une période de transition dans laquelle devait s'installer l'Algérie, eh bien, on avait des facteurs de risque et des facteurs qui, évidemment, continuaient d'entretenir la mobilisation. C'est sans doute ce qui a décidé l'armée de sortir de sa réserve et de prendre position pour une destitution du président, destitution qui ouvre la voie normalement à de nouvelles élections.
Mais un spectre hante l'Algérie, Jacques Sapir, et vous l'avez mentionné, c'est ce souvenir des années 90.
Et bien entendu, la guerre civile continue d'imprégner les mémoires. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle ce pays n'a été touché que très superficiellement, parce que l'on a appelé, bien à tort d'ailleurs, les printemps arabes. L'Algérie, depuis son indépendance, n'a jamais su trouver un équilibre démocratique et pluraliste. Le pouvoir y a été capturé par plusieurs groupes qui s'entre-déchirent de manière souvent feutrée et parfois ouverte. Et l'on peut penser d'ailleurs que c'était leur incapacité à aboutir à un accord sur le successeur de Bouteflika qui avait conduit justement à la situation qui a provoqué l'explosion.
Voilà, et derrière cette crise de régime, eh bien ce qu'on entrevoit, ce sont des difficultés économiques.
Oui, car l'Algérie reste aujourd'hui essentiellement un pays dont l'économie est dépendante de la rente des matières premières, que ce soit le gaz ou le pétrole. Elle n'a pas su gérer sainement cette ressource et elle a beaucoup tardé à mettre en place ce que l'on appelle un fonds souverain, afin de se prémunir contre les fluctuations, parfois brutales d'ailleurs, des cours du gaz et du pétrole. Elle n'a pas su, depuis son indépendance, faire évoluer son économie comme l'ont fait d'autres pays. Les tentatives d'industrialisation de la fin des années 60 et des années 70, conçues sur le modèle de l'économie soviétique, se sont avérées des échecs coûteux. La faiblesse de ce qu'on appelle les droits de propriété entretient un climat qui permet tout à la fois des prédations sur la propriété publique par des oligarques que l'empiètement constant justement de la propriété privée par les acteurs même de cette propriété publique dans des actes relevant bien plus du racket et de l'extorsion que d'autre chose. Cette situation est une cause évidente de colère dans la population. Mais il y a plus. Le chômage, et en particulier celui des jeunes, qui sont aujourd'hui une part majoritaire de la population. Chômage résultant de la combinaison d'une politique ouvertement nataliste avec la stagnation de l'économie et ce qui rend cette colère potentiellement explosive.
Une colère potentiellement explosive, nous dites-vous.
Et oui, la mobilisation continue donc en Algérie. Les manifestants demandent désormais des garanties sur le processus dit de transition et généralement, comme je l'ai dit, plus de liberté et de démocratie. Ils reçoivent désormais le soutien de différentes catégories de la société. On va noter en particulier la manifestation des avocats qui a eu lieu il y a de cela quelques jours et qui a été tout à fait massive. Mais combien de temps encore cela pourra-t-il durer sans que le gouvernement algérien ne fasse des concessions majeures, que ces concessions soient politiques, justement la question de la démocratie, ou qu'elles soient économique. Et c'est bien aujourd'hui la question qui se pose.
Alors des manifestations, oui, qui restent pour l'essentiel pacifiques. C'est notre son du jour, messieurs, avec cette chanson qui est devenue l'un des hymnes de cette mobilisation. On est au cœur d'Alger, la rue est noire de monde, un monde qui entonne la Casa del Mouradia. Écoutez. Voilà la Casa del Mouradia, une chanson satirique en référence à la série de gangsters La Casa des Papel, tandis que Mouradia, c'est le palais présidentiel d'Abdelaziz Bouteflika, accusé, vous l'aurez compris, de kleptocratie. C'est en fait un chant de supporters de foot qui s'est répandu, puisque pendant longtemps, les groupes de supporters étaient parmi les seules réunions publiques tolérées par le pouvoir, une politisation dans les stades, comme souvent dans cette région. Alors Hicham Rouiba, comment vous l'avez vécu, ce surgissement du peuple? Vous revenez tout juste d'Algérie, ce surgissement du peuple qui n'est plus seulement dans les stades maintenant.
Merci pour l'invitation. Ce que vous venez en fait de faire passer comme chant est très en phase avec l'ensemble des chants qu'on entend pendant en fait les manifestations.
Je précise simplement que cet extrait date de début mars. L'ambiance n'a pas vraiment changé.
Exactement.
Voilà, c'était simplement un extrait que j'ai choisi pour sa qualité, mais il date déjà un petit peu. Ouais.
Et ça caractérise un peu les chants qui sont en fait reliés pendant les manifs. Et il faudrait bien préciser que ça a justement commencé, ça a été toujours le cas pendant le quatrième mandat par exemple, le troisième mandat. Les seuls à pouvoir s'exprimer librement, c'était en fait les supporters, parce que précisément la rue était complètement verrouillée par les forces de l'ordre. Et donc ça serait bien de leur rendre hommage, parce que ce sont les moteurs aussi, ce sont les supporters qui sont les moteurs, les animateurs des manifestations jusqu'à présent. Moi, d'après ce que j'avais observé sur le terrain, on reprend très souvent des chants à caractère sportif, mais adapté à une contestation politique. Donc, ça anime très, très bien les manifestations. Et en participant à ces manifestations, il y a beaucoup de satire, il y a beaucoup de slogans humoristiques. Et il y a aussi, en fait, une sorte d'ambiance pendant les manifs. Si vous participez à une manifestation, vous n'allez jamais vous ennuyer. Parce qu'en fait, c'est très, très bien animé. Et c'est surtout très organisé. Il y a une sorte de praxie exceptionnelle, c'est-à-dire que ça a commencé à travers des appels Facebook dont on ignore, enfin il y a quelques pages, moi par exemple dans ma ville natale il y a une page qui s'appelle en arabe Molareb, mais qui veut dire Béjaïa soit l'observateur, qui a 500 000 d'abonnés et qui dont l'administrateur n'a rien d'autre que son téléphone portable et qui fait en fait la tournée de l'actualité de la ville. Et des pages comme celle-ci, il y en a des dizaines en Algérie. Et donc ça a été en fait le moteur de la communication de cette mobilisation.
Les stades comme zone de non-censure, c'est ça que vous nous dites, de
exactement,
non-censure politique. Et aujourd'hui, c'est la rue qui est occupée, alors que théoriquement, les manifestations sont interdites à Alger depuis 2001.
Depuis un certain temps déjà, depuis les manifs de 2001, mais il faudrait peut-être aller encore un peu plus loin. Les événements de 88 étaient très violents en Algérie. Donc, puis après, il y avait la décennie noire qui a très marqué aussi la population algérienne et qui a servi d'ailleurs de leçon aux Algériens qui voulaient en fait manifester par la suite. Surtout, je pense qu'il y a un parallèle important à faire, c'est que les révolutions arabes ont servi aussi de leçon pour les Algériens parce qu'on avait très peur d'aller au contact physique avec les forces de l'ordre. Il y a un point aussi important, c'est que les forces de l'ordre font partie du mouvement, ce qu'on ne dit pas souvent. C'est-à-dire, moi, j'en ai déjà vu des policiers en civil qu'on connaissait dans la ville et qui participaient aux manifestations. Et désormais, il y a même des policiers en tenue parmi les manifestants.
Vous confirmez ça, parce que c'est effectivement des images qu'on a vues pas mal tourner.
Donc ça transforme complètement l'itinéraire de la manifestation de départ, et surtout, ça chamboule les forces de l'ordre et les autorités. Donc lorsqu'on sait que le corps militaire lui-même, si je vous montrais le nombre de vidéos, de témoignages anonymes de militaires en tenue, etc., et ils sont en centaines, donc ils sont contre le système. Ou si vous souhaiteriez un changement, vous voudriez en fait voir un meilleur avenir pour l'Algérie.
Est-ce que c'est comme ça que vous expliquez le fait cette relative retenue des forces de l'ordre?
En tout cas, moi je suis sûr et certain que les subordonnés au niveau que ce soit armée, gendarmerie et la police seront avec le peuple en cas d'ordre pour aller à la violence contre les manifestants. En tout cas, jusqu'à présent, on n'a rien vu de ce genre. Il n'y a pas vu de contact physique. Il y avait, je pense, une petite risque à Alger, mais dont les manifestants disaient que c'était orchestré, etc., parce que ça s'est déroulé après les manifs. Je rappelle juste que les manifestations débutent après la prière du vendredi, c'est-à-dire à 14h, disons, en moyenne. Et y compris les non-pratiquants attendent la sortie des pratiquants pour commencer un mouvement de masse. C'est-à-dire, c'est tellement bien organisé que, en fait, les autorités ne savent pas trop comment cerner le mouvement.
Votre avis sur cette demande de déclenchement de l'article 102 de la part du chef d'état-major de l'armée?
Ça tombe à un moment un peu critique, parce qu'en fait il lui reste que un mois au président, donc déclencher l'article 102. Après, moi je suis pas juriste, mais techniquement je sais que il y a des problèmes de faisabilité, dans le sens où si on déclenche, on met en place l'article 102 alors qu'on demande d'abord de constater au bout de 45 jours, l'incapacité du président, il faudrait la confirmer par la suite, après les 45 jours. Et surtout, si cette confirmation se valide, il faudrait qu'il démissionne de plein droit. Ça, c'est une autre étape. Ce qui va nous amener à ouvrir 90 jours de présidence par intérim, pendant lesquels les élections devraient en fait s'organiser. Ça va être très, très compliqué à mettre en place. Sachant qu'il y a une loi organique en Algérie qui, de mémoire, demande à chaque candidat de rassembler 60 000 signatures, il me semble. Et le faire pendant cette période de présidence par intérim me semble très, très compliqué, sachant qu'il n'y a pas d'opposition qui tient, qui, disons que les Algériens en fait, n'ont pas de parti politique auquel ils s'identifient. Ouais, ouais,
effectivement. Ouais. Je posais également la question, Jacques Sapir, parce que ce qu'on entend beaucoup chez ces manifestants, c'est pourquoi n'avez-vous pas déclenché cet article 102 en 2014 à la précédente présidentielle, alors que Abdelaziz Bouteflika était déjà très affaibli, touché par les suites d'un AVC, d'un cancer. Oui.
Tout à fait. On peut penser que à l'époque, il y avait peut-être plus d'accord au sein du pouvoir derrière Bouteflika, et qu'aujourd'hui, c'est bien parce qu'il y a de profonds désaccords que Bouteflika est en train d'être lâché par ses principaux soutiens. Maintenant, je voudrais revenir sur la déclaration du chef d'état-major. Il faut la remettre dans la perspective de du message qu'avait envoyé Abdelaziz Bouteflika, où il disait que il ne se représenterait pas, mais que l'élection présidentielle était annulée et qu'il allait y avoir une année dite de transition, dont on ne savait pas vraiment comment elle allait être organisée. Là, ça veut dire qu'il y a des gens en Algérie, et des gens importants, hein, puisque voilà, c'est quand même l'armée qui décide. Maintenant, il y a le syndicat, principal syndicat qui l'a rejoint là-dessus, qui disent non, il faut organiser la destitution du président. Il n'est pas question qu'il reste encore un an au pouvoir. Donc ça, c'est un point important, effectivement. Et il faut qu'on ait des élections. Alors même si on doit compter 45 jours plus 90 jours, c'est-à-dire au total 135 jours, 4 mois et demi, ouais. C'est moins qu'un an, en fait. Et ça veut dire qu'on aurait, à ce moment-là, quoi, des élections en septembre. Ce qui paraît aujourd'hui la chose la plus probable, et on peut penser que on est aujourd'hui tout à fait fin mars, les candidats potentiels ont le temps malgré tout de commencer à s'organiser par rapport à cette élection.
Un peu de temps, mais Hicham Rouibas, ce dont on a aussi l'impression, c'est que la population ne veut pas que le départ de Bouteflika, elle veut le départ de toute une classe politique qui lui est associée, tout un système.
Et justement, c'est tout le problème, c'est qu'en fait, croyant que l'annonce de Bouteflika qui renonce au cinquième mandat suffirait pour calmer les Algériens, alors que non, les Algériens demandent à ce que le système dégage, comme ils le disent, et que toute la caste au pouvoir s'en aille. D'ailleurs, ça a créé des paniques auprès des hommes d'affaires algériens qui ont transféré pas mal de biens, d'après la presse algérienne. Et paraît-il, il y avait même certains avions qui ont été bloqués à Alger il y a quelques jours. Parce qu'il y avait beaucoup d'hommes d'affaires qui voulaient en fait quitter de façon précipitée l'Algérie. Et en fait, moi, je reviendrai juste sur un point sur ce qu'il vient de dire Jacques Sapir. C'est vrai que 4 mois et demi, ça laisserait peut-être le temps aux potentiels candidats, sachant qu'il n'y a pas de candidats comme ça en vue. Mais le problème, c'est qu'on n'a pas aussi de haute instance pour surveiller ces potentielles élections ou ces éventuelles élections. Donc, est-ce qu'on va faire appel aux observateurs étrangers ? Est-ce qu'en fait, on va désigner une délégation au niveau de... Enfin, il y a pas mal de sous-questions derrière cette éventuelle mise en place de l'article 102. Mais à mon avis, la question centrale est est-ce qu'on va désigner des membres du gouvernement de transition par nous-mêmes ou pas. C'est ça, au fait, là. Les Algériens voudraient placer d'autres personnes. Enfin, j'ai pas envie de parler au nom des Algériens, mais d'après ce que j'ai observé sur le terrain, entendu, les gens voudraient désigner des personnes qui vont incarner éventuellement le gouvernement pendant la transition. Et puis, organiser des élections au bout d'une année, etc. Donc là, pour le moment, on n'a pas de sondage officiel. Parce que la presse elle boycotte complètement, la presse en tout cas publique, même certaines privées parce qu'ils sont aussi dominés par le secteur public, boycottent les événements. Donc la seule source médiatique, journalistique qu'on a en Algérie, c'est la presse web et surtout les pages Facebook qui ont parfois 1 million d'abonnés, etc. Donc si vous voulez, les Algériens s'auto-informent mutuellement, et ils cherchent l'information, ils débattent, ils cherchent des critiques rédhibitoires. Lorsque vous participez à une manifestation en Algérie, vous allez vous rendre compte tout de suite que les gens s'interrogent mutuellement. Ce qui veut dire clairement qu'on n'a pas en fait assez de temps pour débattre publiquement.
Juste une question précise. Voilà, je voudrais juste vous poser une question précise. Vous avez dit... Vous avez dit tout à l'heure que les manifestations étaient très organisées. Or, en même temps, vous nous dites il n'y a pas de parti politique. Bon, elles sont organisées par qui?
C'est la force populaire, c'est-à-dire là.
Il faut bien qu'il y ait des gens qui prennent la responsabilité d'organiser.
Ce que j'avais posté justement sur mon compte Facebook, les manifestants que vous voyez à la fin des manifestations se convertir en agents d'entretien, etc. Personne ne leur a demandé de faire ça. Les personnes âgées qui sont au premier rang pour dire on stoppe, on arrête maintenant 5 minutes pour que l'autre groupe avance, etc. Ils se sont autoproclamés organisateurs sans que personne les désigne. C'est-à-dire qu'en fait, on fait confiance à des personnes âgées ou à des personnes respectées dans chaque quartier. Et la caractéristique des manifestations de l'intérieur, c'est que moi, par exemple, à Béjaïa, dans ma ville, chaque quartier, démarrait déjà de son lieu de résidence et se retrouvait sur le plus grand boulevard de la ville, mais en laissant 5-10 mètres d'espace entre chaque groupe de quartier. Et donc, si vous voulez, les foules sont organisées par groupe de quartier. Et donc, du coup, il n'y a aucun parti politique qui est derrière l'organisation de ces mouvements. Et d'ailleurs, les Algériens demandent à ce que le mouvement reste tel quel, ainsi, c'est-à-dire sans représentant qui va par la suite être invité à négocier, etc.
Et les infiltrations de certains islamistes sont complètement neutralisées, généralement plutôt neutralisées. C'est ça qui est intéressant.
Exactement, parce qu'en fait, les manifestations sont aussi un moment d'union nationale. Moi, j'ai jamais cru voir ça un jour en Algérie. Enfin, j'ai grandi là-bas, j'ai fait mes études là-bas. Et là, ce qu'on a gagné, à mon avis, c'est le butin en fait, de la manifestation, de la lutte. C'est cette cohésion sociale qu'on a retrouvée, qu'on a en fait, recréée, qu'on a tant perdu, parce qu'il faudrait dire qu'en Algérie, la confiance, à un certain moment, même au niveau des agents économiques, peut-être notre cher ami nous dira plus sur ça, mais à un certain moment, les investisseurs ne faisaient confiance ni aux institutions, ni aux salariés, ni aux potentiels associés. C'est-à-dire qu'on avait perdu confiance sur tous les niveaux. Donc là, on la retrouve.
Juste un mot encore de politique. Comment est-ce que vous expliquez cette espèce de déficit d'élites alternatives que mentionnait Jacques Sapir? On a pu dire qu'Abdelaziz Bouteflika, finalement, par la force des choses, était devenu une figure qui faisait consensus entre différents clans antagonistes un peu cachés derrière le pouvoir, même certains parlent de marionnettes, et que ces différents clans n'avaient pas réussi à se mettre d'accord sur une nouvelle personnalité qu'ils remplaceraient, d'où cette situation de vieillard restant éternellement au pouvoir, mais également que ces clans verrouillant l'opposition, ça avait empêché l'émergence d'autres figures dans une opposition. Votre avis sur ça?
Ça va être sous forme d'hypothèse, parce qu'il y a plusieurs avis là-dessus. Les politologues algériens parlent d'une scission entre l'armée et le clan de Bouteflika, etc. Donc, mais là, on observe clairement que Gaït Salah a lâché la caste de Bouteflika. Mais ce qui est derrière ça, c'est qu'on revient toujours à cette notion que l'armée a toujours contrôlé en Algérie. Simple exemple, si vous demandez à n'importe quel Algérien, il serait capable de vous donner 3 ou 4 noms de généraux, mais il serait probablement incapable de vous donner, citer 3 ou 4 noms de ministres, par exemple. Donc ça, ça montre clairement qu'on a été dominé par cette caste militaire et que les Algériens s'intéressent à cette caste qui est dominante. Et pour répondre à votre question, tout simplement, lorsque vous avez un pouvoir en place pendant plus de 20 ans, et qui avait bien distribué les rentes, bien fait circuler la corruption de façon à avoir des dossiers sur chacun d'entre eux. Donc les choses ne vont jamais changer, parce qu'à chaque fois qu'une personne soi-disant intègre, avant d'être insérée dans le gouvernement, on la considérait comme une personne sérieuse, honnête, etc. Quelques mois plus tard, elle change de position, ce qui veut dire qu'elle est rentrée dans le jeu de la caste au pouvoir. Donc c'est pour ça qu'on n'a pas eu d'alternative. Les seules alternatives sérieuses qui ont essayé d'émerger ont été tout de suite stoppées, verrouillées par plusieurs façons, que ce soit par des façons juridiques ou techniques, ou parfois par la violence tout simplement.
Renaud Bouchard, vous vouliez intervenir.
Oui, j'écoutais notre collègue tout à l'heure qui parlait en fait justement de ce qu'il appelait en fait la caste des généraux. Et ma question est la suivante. Autant où effectivement les Algériens connaissent peut-être le nom de certains officiers généraux, beaucoup mieux que certains ministres, la question qui me vient à l'esprit, et je n'ai pas tout à fait la réponse, c'est de savoir en fait, est-ce qu'on peut considérer en fait que ces ministres ont un rôle de plastron ? Ce serait peut-être en fait une idée générique, mais qui à mon avis est fausse. Ou alors ne sont-ils pas plus des gens qui ont été parfaitement choisis au regard de leurs compétences ? Ils ont fait des études à l'étranger absolument remarquables. Enfin, je pense par exemple aux dirigeants de la société la Sonatrach, par exemple. On a l'habitude de dire que l'Algérie c'est la Sonatrach et la Sonatrach c'est l'Algérie. Ce sont des dirigeants, des ministres qui ne sont pas arrivés par hasard. On peut imaginer qu'il puisse y avoir peut-être un peu de clientélisme, mais l'Algérie, c'est un pays qui est intégré, avec une administration, avec toute une structure économique et politique qui tourne. Donc, autrement dit, est-ce que, j'allais dire, parmi ce pouvoir militaire, y a-t-il une intégration entre le pouvoir politique extérieur avec des ministres que la population connaît ou ne connaît peut-être pas très bien, mais qui sont en réalité parfaitement efficaces, quoi qu'on en dise ?
Hicham Mouriban.
Bah, ça va être un peu compliqué de répondre à tout ça parce qu'en fait, il y a plusieurs scénarios. Le premier, c'est que l'armée a toujours intervenu dans la désignation des ministres, ça c'est un fait. Le deuxième, c'est que la population, je veux dire, se contrefiche des ministres s'ils sont désignés ou pas. De façon à ce qu'ils ils se disent que si tel ministre intègre le gouvernement, c'est déjà quelqu'un qui va les servir. C'est-à-dire, ils désignant cette caste qui a toujours dominé en fait, le pouvoir depuis des années. Je reviens à ce que j'avais dit tout à l'heure, je me répète, mais c'est toute la question de la confiance. C'est-à-dire que la confiance a été perdue entre le peuple et les membres du gouvernement, mais aussi entre les citoyens eux-mêmes. Parce qu'en fait, au final, au bout du compte, on s'était rendu compte que toutes les personnes qui occupaient des postes assez en fait, gradés, profiter de ce système aussi. C'est-à-dire qu'une fois un tel ministre désigne telle personne auprès d'une agence ministérielle, bah, tout de suite elle rentre dans le même jeu que l'ensemble de cette caste qui est à savoir s'enrichir davantage, travailler son cercle personnel, c'est-à-dire ce qu'on appelle le piston, etc. Donc c'est ça au fait qui est... Il revient souvent en Algérie. Ouais.
Deuxième question, Renaud Bouchard, on vous écoute.
Oui, deuxième question, si vous permettez. Je suis dans le droit fil de ce que vous venez d'exposer. Il y a ce manque de confiance de la population algérienne, avec l'idée d'une collusion entre ces ministres, effectivement, et l'armée qui est derrière. Mais les Algériens sont parfaitement conscients aussi de leur capacité intellectuelle, de leur capacité économique. Vous en êtes un exemple. Je connais aussi personnellement des gens, en fait, qui ont fait, j'allais dire, d'excellentes études, qui occupent des positions aux États-Unis, en Europe et autres, et qui sont tout à fait prêts, c'est l'idée que j'ai en tout cas, à prendre la relève économique, politique, économique, sociale, pour pouvoir reprendre les commandes d'un pays. Voilà. Alors, y a-t-il question, y a-t-il inquiétude, par exemple, pour le pouvoir militaire, de voir arriver des gens qui sont peut-être capables, à la suite d'une période de transition, bah, tout simplement de donner à l'Algérie l'impulsion que, par épuisement, en fait, toute une ancienne équipe, aujourd'hui, est arrivée, j'allais dire, en fin de course.
En fait, vous avez résumé parfaitement ce que le peuple algérien demande avec l'expression en dialecte algérien, c'est-à-dire qu'ils vont tous dégager, y compris le système militaire, y compris cette caste militaire qui tient un peu les manettes. Mais ça va être très très difficile parce que c'est le scénario qu'on craint en Algérie, c'est-à-dire c'est un peu la crainte des Algériens. Est-ce qu'ils vont finalement quitter le pouvoir ou pas ? Et donc on a du mal en fait à imaginer un scénario où ils vont lâcher les choses facilement en disant ok, on va écouter le peuple, on va partir, on va laisser la jeunesse algérienne prendre le relais. Bien évidemment, c'est pas un problème de capital humain en Algérie, hein, pas du tout. On a des compétences un peu partout. Moi personnellement, j'en ai rencontré au Canada, au Danemark, dans des pays où je croyais pas en fait croiser des Algériens occuper des postes de haute qualification, mais il y en a partout. Ils attendent tous ce moment-là, c'est-à-dire à ce que cette caste dégage pour qu'on puisse justement reconstruire une nouvelle Algérie. Mais c'est tout l'espoir de la population algérienne. Je tiens juste à préciser un point. Le point moteur de cette mobilisation en Algérie, c'est cette jeunesse justement qui a moins de 30 ans. Parce qu'en fait, ce qu'on a oublié de préciser, c'est ce qu'on a vécu, ce que Jacques avait précisé avec la dessinée noire en Algérie qui a marqué les esprits, etc. C'est que cette jeunesse qui a moins de 30 ans n'a pas connu ça, n'a pas vécu ça. Il pense présent, il parle futur.
Certains n'ont connu que Bouteflika au
pouvoir. Ceux qui ont 20 ans, par exemple, nés en 98-99, ont connu que Bouteflika. Moi, je n'ai connu que Bouteflika en étant petit. Avant ça, la seule image que j'ai en tête, c'est l'assassinat de Boudiaf en direct à la télé. J'avais vu ça.
J'avais vu ça en direct.
Et donc les générations précédentes avaient vécu pire que ça, parce qu'ils ont ils avaient vécu la dessinée noire au quotidien. C'est-à-dire que le terrorisme, les massacres, ils avaient vécu ça. Mes parents, par exemple, ils ont vécu ça au quotidien. Mais nous, les jeunes qui ont en fait 30 ans et moins, surtout ceux qui ont moins de 25 ans, par exemple, n'ont pas vécu la guerre civile. N'ont pas connu la guerre d'Algérie, la colonisation, etc. Ils ont de la mémoire, bien évidemment, mais ils font abstraction de ça parce qu'ils pensent au futur. Ils parlent présent en connaissance de notre potentiel en Algérie. Lorsque vous avez un PIB de plus de 2 380 000 km et à côté, vous avez en fait des constructions made in China sur des zones déjà encombrées et sur parfois des terres arables, etc. Toutes ces questions-là reviennent en Algérie. Et la force motrice de cette mobilisation, c'est que en créant un chômage de masse, vous créez parallèlement, comme disait Robert Castel, un capital temporel. C'est-à-dire que ces jeunes-là ont du temps. Et ce temps-là l'ont converti en énergie positive. Et c'était, j'allais dire, c'était en fait ce qui a déstabilisé le pouvoir jusqu'à présent. Et donc, il y a des jeunes qui sont disponibles, qui sont organisés, qui ne travaillent pas, mais qui ont fait des études. Et donc, lorsqu'ils s'engagent massivement, ça crée une force quand même qui est redoutable, quoi. Et donc, le pouvoir, il est dos au mur jusqu'à présent. Et c'est même si qu'on s'interroge, bien évidemment, sur l'avenir.
Russe Europe Express,
Jacques Sapir,
Clément Olivier. Eh oui, dégager la caste, comme vous avez dit, c'est là qu'on voit qu'il y a quelque chose de profondément révolutionnaire là-dedans, même si ça n'est pas violent physiquement, c'est ça qu'on appelle une révolution. Dégager la caste, c'est à peu près ça.
Ouais.
Alors, Renaud Bouchard, permettez-moi cette fois-ci de vous poser une question moi-même. Ces différents clans, Hicham Rouiba nous dit qu'il verrouille la politique. Est-ce que vous, passons à l'aspect économique, est-ce que vous avez l'impression qu'il verrouille aussi l'économie?
Je crois qu'ils sont obligés de piloter à vue maintenant. Parce que je lisais très récemment un article en date du 1er mars qui a été publié en fait par le vice-président de l'Université Paris-Dauphine, qui lui-même est économiste, M. El Mohoub, qui, dans un article que j'ai sous les yeux, ici, dont je vous donne le titre, « Algérie, économie politique d'une rupture annoncée ». En fait, il met le doigt sur des questions qui sont parfaitement connues, que je résume ici. Les idées sont là, mais il manque le nerf de la guerre et il manque de l'argent, en fait. L'Algérie, lorsqu'elle accède à l'indépendance, elle a la chance à la fois de bénéficier en fait de tout. C'est un pays en fait auquel on a donné en fait les clés en main pour pouvoir démarrer. Et en plus, on est à l'aube de la découverte d'une richesse gazière, d'hydrocarbures absolument extraordinaire, le sous-sol, le gaz et le pétrole. Et depuis en fait 1962, je dirais même 1967 en réalité, que s'est-il passé? Alors je ne fais pas partie des Cassandres qui seraient tentés de considérer que tout a été gaspillé et tout. Non, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai parce qu'en fait, beaucoup de choses ont été réalisées en Algérie. Et depuis, en fait, les premières expériences, peut-être à tendance en fait, d'économie dirigiste ou dirigée, ce qui avait été établi par un économiste français qui était Gérard Destaine de Bernis, qui est à l'origine de ce fameux concept un peu ronflant, mais qui veut dire des choses quand même, des industries industrialisantes. Ça, c'est la magie du concept.
C'est superbe.
Où il fallait ensuite noircir les interstices industriel, en fait, voilà. Il s'agissait en gros, dans un pays moderne qui déjà avait cette puissance, cette jeunesse, cette vitalité, eh bien, de se servir en fait des ressources économiques, pétrolières, hydrocarbures, pour mettre en place, non pas un système de combinat soviétique, mais enfin, des grosses industries, notamment par exemple l'industrie pétrolière, gazière, mais aussi les aciéries aussi, pour pouvoir créer en fait des nœuds de démarrage pour lancer en réalité, ab initio, un pays dans ce qui pouvait être en fait un décollage industriel. Ça n'a pas été un échec, même si ça n'a pas été une réussite non plus. Et je dis, il ne faut pas nuircir le propos, parce que
Oui, parce qu'on parle un petit peu de syndrome hollandais, ce qu'on appelle le syndrome hollandais pour l'Algérie. Mais vous avez l'air plus optimiste que ça.
Je suis plus optimiste.
Le syndrome hollandais, c'est en référence à ce qui s'est passé aux Pays-Bas dans les années 60, c'est-à-dire le fait qu'une économie soit asphyxiée par sa dépendance à sa rente au pétrole.
Chaque pays, en fait, a son originalité. Hein. L'Algérie n'a pas connu, en fait, la Dutch disease, hein, ou la maladie hollandaise et autres. Il est certain qu'à un moment donné, j'allais dire, il y a eu une économie prédatrice. Après tout, effectivement, il y a eu des fonds absolument gigantesques qui sont arrivés en Algérie, à telle enseigne que lorsqu'en l'an 2000, en fait, l'Algérie décide, alors c'est un mouvement général qu'on trouve à l'échelle du globe, de se doter en fait d'un fonds de recettes de répartition, enfin de répartition de recettes de toutes les ressources en hydrocarbures. Il y a eu à un moment donné une situation où la situation en fait financière de l'Algérie était tellement florissante qu'elle se proposait même de prêter l'argent au FMI. Voilà. Même si quelques années après, elle se trouve dans une situation difficile. Et j'ai ici sous les yeux en fait une indication qui vous donne en fait qui pose la question en fait des marges de manœuvre économique futures de l'Algérie, mais à distance de quelques mois ou tout au moins de la fin de l'année 2019 et 2020. Ce sont en fait ce qu'on appelle les déficits jumeaux, j'explique ça pour nos auditeurs, qui sont en fait le déficit budgétaire et la balance courante. Et je cite ici une indication que j'ai recueillie, qui devrait se situer au-delà du seuil des 10% en 2019. Pourquoi ? Parce que toutes ces ressources en hydrocarbures ont connu en fait une sorte d'assèchement. D'abord parce qu'il y a eu une mauvaise gestion qui a été faite à l'intérieur du pays, et puis ensuite il y a la conjoncture économique extérieure qui fait que, on a dépensé de l'argent, mais on ne l'a pas bien dépensé. Et ces réserves de change dont dispose en fait l'Algérie ont inexorablement fondu, elles ont donc en fait handicapé la marge de manœuvre stratégique en fait de l'Algérie, et pour vous donner une indication, elles sont passées de 193 milliards de dollars en 2013, c'est-à-dire ça fait à peu près 170 milliards d'euros à la louche à peu près, à 85 milliards de dollars fin 2018, ça fait 75 milliards d'euros, c'est-à-dire une chute de plus de la moitié. Et dans ce contexte, on rejoint effectivement des difficultés économiques que connaît la population, c'est qu'on a un glissement du dinar qui a perdu en fait 40% de sa valeur face au dollar depuis 2014, au risque de nourrir des tensions inflationnistes. Alors où est-ce qu'on va maintenant ? Eh bien tout simplement, c'est dans la fin de l'article que j'évoquais, de M. El Mohoub, il dit tout simplement maintenant, il reste encore des ressources en sous-sol. Mais maintenant, il faut créer un véritable fonds souverain, qui soit un fonds souverain d'accumulation du capital et un fonds souverain social, de telle sorte qu'on puisse intelligemment flécher, hein, c'est un mot à la mode en ce moment, c'est flécher en réalité tous les projets que la jeune population algérienne n'attend que de développer avec un élargissement du carcan bancaire, avec des concours financiers. En fait, il y a toute une économie moderne qui est en train de se mettre en place et qui n'attend que ça.
Et justement, c'est pour ça qu'on vous a invité. Quelques chiffres, tant qu'on est sur les chiffres, on parle de près d'un quart du PIB algérien qui serait porté par cette exploitation des ressources gazières et pétrolières. 95% des exportations algériennes sont également dans ce domaine-là. Et deux tiers des recettes fiscales, c'est à ça que sert un fonds souverain, justement. C'est à faire fructifier dans d'autres domaines, cette rente pétrolière, votre avis sur cette situation.
Je vais répondre à votre question, mais je voudrais juste avant pour nos auditeurs donner une définition de ce que c'est qu'un fonds souverain. J'ai ici une définition du Fonds monétaire international qui nous dit que les fonds souverains sont des fonds d'investissement, c'est concrètement, ce sont des sommes d'argent, qui sont détenues par les gouvernements de divers pays qui gèrent des excédents nationaux dans un but d'investissement. À l'origine, en fait, ce sont des ressources, en devises étrangères. Et pour simplifier, en fait, à l'extrême notion, on peut dire que les fonds souverains sont les bas de laine et les tirelires gouvernementales des pays qui tirent de leurs revenus, extraordinaires de ce qui peut considérer, en fait, les ressources en hydrocarbures. Mais il y a aussi d'autres ressources qui sont à l'origine des fonds souverains. Ça peut être aussi de l'ingénierie bancaire, uniquement. Je pense par exemple à Singapour, qui a deux fonds souverains. Il n'y a pas de ressources pétrolières, il n'y a rien du tout à Singapour. Mais vous avez le fonds Singapour, le CIC Singapour, et puis le fonds Temasek. Vous avez par exemple un autre fonds souverain que j'aime beaucoup, celui-là, qui est le Pula Sovereign Fund, qui est celui du Botswana. Il est assis sur le diamant. Et en fait, il répond parfaitement, certains, à l'origine, c'est ça, c'est en fait destiné, en fait, parce que ça part d'une très bonne idée à l'origine, il n'y a qu'à regarder par exemple la manière dont est géré et dont est conduit le fonds souverain norvégien, qui est le plus grand fonds souverain du monde, par exemple, avec une capitalisation de 1 000 milliards de dollars. En fait, on pense aux générations suivantes. Alors les générations suivantes, c'est très ennuyeux parce que vous avez des fonds dans lesquels les gouvernements, tout au moins les autorités locales, ont tendance à confondre les fonds publics avec leurs poches privées. Mmh. Hein, je ne citerai pas de nom ici, mais voilà, c'est pas du tout ça. Voilà. Et puis alors vous en avez d'autres en fait qui ont compris que le fonds souverain était en fait un outil, un véhicule financier absolument extraordinaire qui va pouvoir servir à tout. À faire de la stabilisation financière, à faire de l'accumulation de capital, et puis surtout à répondre, en fait, à tout simplement gérer des actifs financiers dans des optiques à plus ou moins long terme. Là, dans l'Algérie, on est maintenant dans du court terme. Et il va falloir, en fait, dégager avec... Il va peut-être y avoir une hausse du cours du pétrole, je ne sais pas, en fait, c'est un peu compliqué, là. Mais il va falloir maintenant affecter, et je réponds à votre question, les ressources qui viennent maintenant à une population qui n'en peut plus, tout simplement, de voir un secteur privé totalement évincé par des pratiques gouvernementales publiques où, grâce à l'argent qui est en train de s'effondrer de la quantité moindre du fonds souverain, eh bien, tout simplement, on subventionne tout. On ne peut pas continuer comme ça.
Hicham Ouéba, votre avis?
Oui, je rejoins en fait l'analyse de notre ami. Moi, je tiens juste à préciser deux éléments. C'est que la proposition de Mohamed Belmohamed, elle est en fait crédible. Mais c'est qu'à mon avis, ça ne répond pas aussi à deux autres éléments principaux. À savoir, c'est que l'économie algérienne, de mémoire, 41% du PIB est en fait tiré d'une économie informelle. Donc, comment régler ce problème? Enfin, lorsque je parle informel, eu égard en fait aux fausses déclarations fiscales, au travail en noir, etc. Mais c'est surtout le marché parallèle de la devise auquel les Algériens, tous les agents économiques, y compris les investisseurs, font confiance plus au marché parallèle que au marché officiel. Et donc je reprends la citation de mon ancien professeur Jacques Sapir justement à l'HSS, qui disait que la monnaie était le trou noir de l'économie. Là, on a un trou noir dans un marché noir, en fait. C'est-à-dire qu'on a un marché noir de la devise qui est géré par des citoyens, des Algériens, dans lesquels, en fait, l'écart entre le marché officiel peut atteindre 70 dinars, par exemple, dans un mois. Et donc, du coup, la confiance qui devrait être attribuée aux institutions, elle est basculée vers l'économie informelle. Deuxième point, c'est que l'économie algérienne est, par définition, irrationnelle. Ici, l'irrationalité, elle est sur plusieurs niveaux. Lorsque on concentre notre économie justement sur les hydrocarbures, alors qu'à côté, on a une richesse beaucoup plus considérable qui est l'énergie solaire, l'Algérie, à Paris, de mémoire, on dit qu'on reçoit un kilomètre carré à Paris reçoit 1 mégawatt par jour. En Algérie, un kilomètre carré en Algérie reçoit 5 mégawatts par jour, ce qui équivaut de mémoire, je ne sais pas si je convertis bien, 4 barils de pétrole par jour. Et donc, on continue, alors qu'on a à peine deux stations, une station et demie d'énergie solaire. Et donc, ça relève de l'irrationalité des choix des gouvernants. Et donc, du coup, cette irrationalité, on peut la multiplier. Hein. On a 1600 de côtes maritimes au sens topographique. On n'a aucune énergie des mers. On a du poisson qui meurt de vieillesse, alors qu'on n'a pas assez de poisson sur le marché. Donc, il y a plein de choix à faire. Les Algériens n'ont même pas de compte, ils ne peuvent même pas acheter à travers une carte bancaire. Ça s'est mis en place là récemment. C'est-à-dire qu'ils ne pouvaient pas acheter quelque chose en ligne. Donc il y a pas mal d'autres paramètres, mis à part le fonds souverain, qui devraient être mis en place tout de suite, notamment pour régler ces problèmes-là.
Jacques Zapian, votre avis sur tous ces aspects économiques?
On voit très bien qu'il y a deux aspects. La première chose, et ça vous avez tout à fait raison de le dire, il faut une bonne définition, une bonne délimitation des droits de propriété. Et ça, c'est absolument essentiel. Ça ne veut pas dire, d'ailleurs, beaucoup de gens disent, oui, les droits de propriété, ça veut dire la privatisation. Pas nécessairement. Ça veut dire, il faut qu'on sache ce qui appartient au public, ce qui appartient au privé. Mais qu'il n'y ait pas d'ambiguïté entre les deux. Ça, c'est un premier point. Le deuxième point qui me semble tout à fait évident, c'est qu'il va falloir redonner, je dirais, une véritable crédibilité à toute une série d'institutions. Que ce soit effectivement sur la monnaie, parce que la monnaie, c'est une institution. Et là, il y a un problème, et l'Algérie n'est pas le seul pays dans lequel se pose le problème, hein, c'est la question du taux de change. quand vous avez un taux de change qui est fixé administrativement, au bout d'un temps, se met en place un deuxième taux de change, qu'on appelle un taux de change au noir, parce que ce taux de change fixé par l'administration ne correspond pas aux réalités économiques.
Exactement.
Donc, il va falloir... Alors, je ne dis pas que ça sera fait la semaine prochaine, si vous voulez. Ce n'est pas quelque chose qui peut être fait en quelques jours. Mais c'est quelque chose à lequel il faut tendre, c'est à la réunification des deux taux de change. Et ça, c'est absolument essentiel. Et puis, il va surtout falloir que l'Algérie développe, je dirais, ses véritables activités. Par exemple, l'Algérie importe pratiquement tous les biens de consommation, alors que dans un pays voisin, comme le Maroc, se sont installées des entreprises, par exemple des entreprises automobiles, Renault pour ne pas la citer, qui produisent des véhicules. Pourquoi pas en Algérie ? Parce que techniquement, le marché algérien, il est plus important que le marché marocain.
Et une forte dépendance de la France également, qui est son deuxième fournisseur à l'Algérie. Et oui.
Tout à fait.
Renaud Bouchard, on vous écoute.
Pardon. Vous avez des réussites économiques en Algérie. Je n'ai plus le nom de la société en question, mais qui, en électroménager, a racheté un gros groupe industriel français.
Français, oui. Mais qui maintient ses unités de production en France.
Oui.
En France,
oui,
c'est ça.
Et qui, voilà. Et ça, c'est quelque chose d'extraordinaire. Et la deuxième question que je me pose, je vous pose aussi la question, Jacques, c'est que irriguer ou élargir ou assouplir en fait un système économique, je suis pas sûr que si les Algériens connaissaient les termes du rapport du FMI qui a été publié, enfin qui n'a pas été publié en Algérie, mais qui en fait qui a été rendu public en 2018, je ne sais pas trop quelle serait la réaction. Et ce document est le suivant. Il explique en fait qu'en 2022, les réserves de change d'Algérie permettront moins de 5 mois d'importation et 2023 estimé à 12 milliards de dollars avec moins de 3 mois d'importation. Ça, c'est après-demain, ça.
Alors justement, Hicham Ribas, c'est là-dessus qu'on ce sera notre mot de la fin.
Oui, mais j'ai pas lu le rapport de la FMI. Ce serait intéressant de le lire. Mais juste, je rappelle une chose. La FMI, c'est la même institution qui avait imposé à l'Algérie
des conditionnalités,
de la privatisation, etc., qui ont en fait entraîné une grande crise de l'endettement.
C'est classique, oui.
De l'Algérie. Donc c'est eux par la suite qui reviennent nous dire en fait quel serait l'avenir. Moi, j'ai vu la Banque mondiale comment fait ses enquêtes. En Algérie, elle enquête auprès d'Alger et sa périphérie. C'est comme si vous disiez en fait la France, c'est Paris et la banlieue française, alors que ce n'est pas du tout exhaustif. Donc moi, juste pour rebondir sur ce que vient de dire Jacques, exactement sur la question des taux de change, ça c'est principal. Et un chiffre à travers qui est tiré d'une enquête qui a été faite par des amis banquiers, ce qu'on appelle l'enquête marqueur, qui marquait en fait des billets d'argent pour voir combien de temps mettrait pour qu'il puisse se réintroduire dans les banques. À votre avis, ça prend combien ?
On ne les revoit pas.
28 mois. Pour
28
un tiers
mois.
Des sommes marquées. C'est alors que énorme. La norme en Europe, c'est quoi ? C'est 4 mois, quelque chose
oui,
comme ça ?
Oui, tout à fait. Tout à fait.
Donc, la vitesse de circulation beaucoup plus rapide.
Oui, tout à fait. Tout à fait. Et donc ça, il y a une vitesse de circulation très lente.
Exactement.
Et ce qui veut dire qu'il y a en réalité moins d'activité.
C'est ça.
Tout à fait. Tout à fait.
Eh bien, écoutez, la balle est dans le camp des Algériens, je crois. Hicham Rouiba et Renaud Bouchard, merci beaucoup.
Mais avec
deux.
Beaucoup de confiance, merci. Hein, je vous dis tout de suite.
On l'espère. Merci beaucoup à vous deux. Merci bien sûr aussi à vous, Jacques Sapir, et à tous nos auditeurs. Cette émission se consomme à volonté en images ou en son. C'est sur la page YouTube de Spoutnik France ou sur notre site fr.spoutniknews.com. Un numéro préparé avec Jean-Baptiste Mendès, mais également Louis Doutrebente, qu'on salue. Derrière les manettes, c'était Pippo Picci, Antoine Darwin et Thibaut Picard. Rendez-vous est pris naturellement au prochain épisode de Russe Europe Express avec Jacques Sapir. D'ici là, faites pas au Jacques. Salutations.
This is not a method. This is a provocation. Let them do.
No. No.